Chapitre 75. Mausolée d'Ishak Pacha, Nakhetchevan. Le corps de Parastoukan reposait sous le mausolée, sur une dalle de marbre, couché sur le côté droit, pied au nord-ouest et tête au sud-est, le coude posé contre le corps, l'index pointé vers le ciel. Le milliardaire avait fermé les yeux une fois les mercenaires hors de la cellule, puis avait doucement laissé la vie s'évader de son corps, sans un mot. Cela avait pris moins de 30 minutes. Arsène s'était assis à côté de lui, avait écouté la respiration du milliardaire s'accélérer d'abord, puis ralentir, faiblir, jusqu'à s'arrêter définitivement. C'était fini. Comme Cortés s'y était engagé, une dizaine d'hommes avaient accompagné Zach et Arsène lorsqu'ils avaient porté jusqu'au mausolée le corps sans vie, étonnamment léger, de Parastoukan. Cécile suivait. Dans le mausolée, selon les rites funéraires azéris, Cortés avait fait préparer des bassines d'eau pour laver le corps, un long linceul de coton blanc pour l'envelopper, et des livres de prières tésillés. Trois mercenaires armés se tenaient derrière eux, raides comme des statues. Sept autres gardaient la porte dans le couloir. Zach déplia le long linceul blanc. « Sortez maintenant !» fit-il en se retournant vers les miliciens. Zach s'exprimait en azéri. Les mercenaires restèrent de marbre. « Vous êtes tous musulmans !» continua Zach avec la détermination d'un imam courroucé. Vous avez tous enterré un parent. Y avait-il des hommes armés dans la pièce lors du rite ? Les trois gardes hésitèrent sur l'attitude à adopter face à ce chrétien qui leur donnait des leçons de morale religieuse dans leur langue natale. « Faites le tour !» ordonna Zach. Le mausolée se résumait à une petite crypte de pierre circulaire de 5 mètres sur 5, creusée en sous-sol sans aucune fenêtre. Sans issue autre que la porte. Zach insista encore, désignant chaque recoin de la pièce ronde avec son doigt. « Nous n'allons pas nous envoler sur les ailes de Munkar et Nakir !» Les trois gardes se consultèrent brièvement, prirent le temps d'inspecter en détail la chambre mortuaire, chaque pierre, chaque dalle, puis consentirent à sortir. Ils tirèrent la porte derrière eux. Cécile se retint de hurler de joie. Zach laissa tomber par terre le linceul. « Vite !» murmura-t-il au professeur. « Pas une seconde à perdre, il faut soulever la pierre tombale !» Arsène Pareja mit plusieurs secondes à réagir. Malgré lui, il n'arrivait pas à chasser une image obsédante de son esprit. Il y a moins d'une heure, il avait tué un être humain de ses propres mains. Il avait enfoncé l'extrémité métallique d'un ressort rouillé dans le ventre d'un homme. D'un homme qui lui avait demandé d'exécuter ce geste comme une faveur, comme sa dernière volonté.
« Mon cher professeur, »
avait eu la force de murmurer Parastoukan à son oreille.
« Mon salut ne viendra pas du respect de superstitions ridicules, mais... de ma capacité à réparer le mal que j'ai engendré. Et pour réparer, je dois vous aider à fuir de mon palais. J'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, le seul plan que j'ai trouvé pour que vous ayez une chance d'échapper aux hommes de Kirill implique que je meure.
La stèle, vite !
Pressa Zach. Arsène Pareja s'extirpa de sa torpeur. Cécile s'arc-bouta elle aussi sur l'épaisse dalle de marbre. Elle lut l'épitaphe tout en bandant les muscles de ses bras. Arina Khan, 1931-1983. À mon épouse, l'âme d'Ishak Pacha. Puisse ton esprit s'envoler par-delà les frontières et séjourner avec les anges au-dessus de l'Ararat. La pierre de marbre devait peser plusieurs centaines de kilos. Au prix d'efforts démesurés, ils parvinrent à la faire glisser sur quelques dizaines de centimètres.
Poussons-la encore vers l'entrée du mausolée,
suggéra Zach à voix basse.
Si nous parvenons à la poser entre la porte et la base de la tombe, plus personne ne pourra entrer.
Ils soufflèrent longuement, puis continuèrent de pousser le bloc de marbre. Arsène Pareja laissait son corps agir, ses muscles souffrir, pendant que son esprit s'égarait encore. Il entendait les murmures de Parastoukan, sa parole apaisée.
Professeur Pareja, écoutez-moi avec attention. Il existe au Nakhetchevan tout un réseau ancien de canaux d'irrigation souterrains. On les appelle ici des chaéries. Ils étaient creusés à la main pour amener l'eau des montagnes jusqu'à la plaine, mais les chaéries ont été progressivement abandonnées avec l'introduction de systèmes modernes de canalisation. Tout le monde les a oubliés. J'ai financé ces dernières années beaucoup de programmes de restauration. Ce n'est pas le moment d'un bilan, mais... j'ai la fierté de pouvoir dire que, grâce à mon argent, près de 50 villages de notre République sont fournis en eau uniquement par la remise en service d'anciens chaéries.
La plaque de marbre continuait de glisser centimètre après centimètre. Zack avait étendu par terre le linceul blanc afin d'atténuer le bruit.
« Cécile, ordonna-t-il, inutile de pousser la plaque, vous ne nous êtes d'aucune utilité. Essayez plutôt de couvrir le bruit en chantant des prières taisiées. Dans les rites funéraires azéris, ce sont les femmes qui mènent les chœurs. »«
Ben voyons,
pesta Cécile, vexée.
J'en connais aucune. »
Elle redoubla d'efforts pour tenter de pousser la stèle.
« Psalmodiez alors ! Lisez phonétiquement les livres de prière et récitez. Le plus fort possible !»
La chercheuse haussa les épaules, mais obéit. Elle se posta au plus près de la porte et cria dans une prononciation incertaine des prières azéries qu'elle choisissait au hasard. Elle se sentait ridicule autant que sacrilège. Zack et Arsène, épuisés, unissaient leurs dernières forces. Leur seul espoir reposait sur les ultimes révélations de Parastoukan.
« Écoutez-moi, professeur. Comme presque tous les caravansérails au Nakhitchevan, Ishak Pacha fut construit jadis sur un chahiriz. Je crois être le seul à me souvenir encore de son emplacement. »
La voix de Parastou avait encore faibli sous le coup de l'émotion.
« Il y a une trentaine d'années, lorsque le cœur d'Arina a cessé de battre, le lieu que j'ai choisi pour y ériger le mausolée de ma femme m'est apparu évident, l'emplacement même de l'arrivée du chahiriz oublié. Ma chère Arina était plus superstitieuse que moi. Elle avait ainsi l'impression que son corps serait protégé dans la crypte, mais que son âme pourrait plus facilement s'échapper si sa tombe comportait une ouverture, que les anges pourraient plus aisément circuler entre elle et le paradis.
Où débouche ensuite le chahiriz ?
Avait demandé Arsène Pareia, incrédule.
Je ne sais pas exactement. Le chahiriz passe la frontière sous l'Arax. Ensuite, il grimpe sous les montagnes iraniennes selon le principe d'une conduite forcée. L'exutoire doit se situer quelque part au-dessus de la gorge de Makou, dans le désert iranien.
La plaque de marbre glissa sur le linceul pour s'arrêter derrière la porte. Zack s'effondra, trempé de sueur.
« Au moins, murmura-t-il, les hommes de Cortés ne peuvent plus entrer. À moins de défoncer cette porte, mais ça leur prendra un sacré bout de temps. »
« Reste à sortir, » ajouta Arsène.
Cécile, n'ayant plus à couvrir le bruit des deux hommes, avait cessé de réciter les prières azéries. Elle s'avança vers la tombe ouverte. Elle ne put qu'à demi réfréner un cri.
« Mon Dieu !»
La chercheuse porta sa main devant sa bouche.
« Merde !»
réagit Zack en se rapprochant. Il se pencha au-dessus de la tombe. Le sol de la sépulture était recouvert de lattes de pierre cimentées avec du sable et de la chaux. Posé sur un drap blanc, le squelette d'Arina Khan y dormait sagement.
Oh, « On ne peut pas passer par là !»
bégaya Cécile.
« Pas par une... »«
Je crains que nous n'ayons guère le choix, » répliqua Zack. Il sauta à pieds joints dans la sépulture. Sa semelle heurta une phalange qui s'effrita en une fine poussière blanche. Cécile écarquilla les yeux. De minuscules tiges vertes poussaient sous les pierres et s'immisçaient entre les interstices du drap troué, courant telles des nervures le long des os blancs du squelette d'Arina Khan. Des tiges plus larges sortaient des orbites noires du crâne et serpentaient vers l'os nasal et le maxillaire. Cécile avait l'impression que le cadavre se transformait en quelque chose de vivant. Un squelette marbré de veines vertes, irrigué de sève, mi-humain, mi-végétal. Du bout du pied, Zack écarta l'omoplate de l'épouse défunte de Parastoukan et se pencha pour dégager les joints de sable entre les pierres. Devant la mine horrifiée de Cécile, il se tourna vers la dépouille.
« Désolé de vous déranger, Arina, mais c'est pour la bonne cause. Il faut vous pousser un peu. »
Il écarta un tibia.
« Nous ne faisons que passer. »
Zack gratta la terre sous le drap blanc. Il arracha quelques tiges vertes.
« C'est bon signe. Ces plantes prouvent qu'il y a de l'humidité. L'entrée du chahiriz doit être juste en dessous. »
Il fouilla plus profondément. Sous le choc d'un geste incontrôlé, le crâne d'Arina se détacha et roula sur le côté. Cécile ferma les yeux, écœurée. Arsène passa derrière elle et posa tendrement sa main sur son épaule.
C'était la volonté de Parastou, Cécile. C'est ce qu'il désirait. Que nous parvenions à nous sauver, y compris en profanant le tombeau de sa femme.
Je sais. Là !
S'écria Zack. Il jeta des pierres sur le côté, dégageant sous la tombe une ouverture circulaire d'une cinquantaine de centimètres.
Parastou avait raison.
Murmura Arsène.
Vite, maintenant.
Zack continuait d'agrandir l'ouverture. Elle atteignait maintenant près d'1 mètre. Arsène serra la main de Cécile. Ils sautèrent ensemble dans la tombe. Zack se faufilait déjà. Cécile hésita une dernière fois. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la petite Aman, seule dans sa cellule. « Nous ne te laisserons pas. Jamais. » Elle avait prononcé ces mots il y a quelques heures. Aman lui avait fait confiance. Mais quelle autre solution avait-il que de fuir, sans la fillette, en espérant revenir à temps la délivrer? Mon Dieu, était-elle devenue à ce point hypocrite? Les événements lui échappaient, il n'y avait aucune bonne décision à prendre. Juste survivre.
« Un conseil, Cécile, » dit Zack.
« Attrapez le linceul de la tombe et entourez-le autour de vos cuisses. »
« Le suaire sur lequel le cadavre d'Arina a pourri pendant toutes ces années, vous êtes dingue !»«
Oh non, cuisse nue sous votre robe, vous ne tiendrez pas 100 mètres à ramper dans ce tunnel. » Cécile grimaça de dégoût.
« À votre avis, quelle longueur fait-elle cette canalisation ?»«
Impossible de savoir. Disons, entre 5 et 10 kilomètres. Mais c'est plutôt en dénivelé qu'il faut calculer. Le Chahiris doit monter à plus de 1000 mètres. » »«
Un autre conseil, Cécile. N'arrêtez pas vos prières. »
Pourquoi ? Pour qu'il ne pleuve pas pendant que nous ramperons comme des lombrics dans cette canalisation.